Le retour vers le passé nous éclaire considérablement sur ce qu'on a manqué, sur ce qui a été oublié, qui nous permet de comprendre un petit peu ce que liberté veut dire.
Aristide Briand.
On t'appelle l'apôtre de la paix. Comment t'es venue cette merveilleuse vocation ?
Un jour que je faisais un discours, comme d'habitude, quelqu'un a crié « La paix ! Foutez-nous la paix !» Ce fut une révélation et depuis, eh bien, j'essaie de la donner aux hommes.
Dans le personnel politique, il faut toujours distinguer ceux qui travaillent à la guerre de tous contre tous, car leur ambition ne saurait s'accommoder de la paix, et ceux qui travaillent à la paix tout en étant prêts à la guerre. Les premiers n'ont que sarcasme pour les seconds, ils les présentent comme des laxistes naïfs, des chiens crevés au fil de l'eau. Aristide Briand fut traité ainsi. Il est vrai que venu de la gauche syndicale, il s'était retrouvé peu à peu au centre. Cela lui a permis d'être 20 fois ministre, 11 fois président du Conseil, mais lui a valu beaucoup de sarcasme. Il a été le principal acteur de la loi de séparation de 1905, qu'il a eu le mérite de ne pas concevoir comme une machine de guerre contre les religions. Président du gouvernement le plus long de la Grande Guerre, il a choisi de défendre Verdun, privé ensuite de rôle par Clémenceau jusqu'à la fin du conflit. Il reviendra en 1925 pour tenir le Quai d'Orsay 7 ans durant. Il choisira alors la carte de la réconciliation franco-allemande et de la coopération européenne. L'effort de Briand se brisa contre ce qu'il n'avait pas prévu, la grande crise économique, la montée des extrémismes. Après sa mort en 1932, un an avant l'accession de Hitler à la chancellerie, Claudel l'avait salué ainsi. Quand l'Europe prit congé du bon sens, Briand prit congé de la vie.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Christophe Bellon, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Il a été surnommé le pèlerin de la paix. Vous êtes le pèlerin de Briand. Hein, parce que depuis combien d'années travaillez-vous sur Briand avant de produire ce livre important aux éditions du CNRS ?
Oh, je crois que ça a commencé au siècle dernier, puisque 1997-98, ça fait bien maintenant, voilà, plus de 15 ans.
Alors on lui a fait beaucoup de reproches, il n'a pas beaucoup écrit, alors du coup, il n'a pas de plaidoyer pro domo à présenter, il n'a pas eu d'héritier, hein, parce qu'il n'avait pas de famille, n'était pas marié.
Célibataire, avec des grandes conquêtes, mais malgré tout sans famille.
À Saint-Nazaire, puisqu'on évoquait Saint-Nazaire, ses ennemis se gaussaient de lui parce qu'on l'avait surpris avec une de ses maîtresses dans les buissons d'un parc de la ville.
Absolument, c'est l'affaire de Toute Z qui avait donc poussé Briand dans les bras, certes de sa maîtresse, mais surtout de la femme d'un riche notable de la ville.
C'était la même, attendez.
C'était la même, bien sûr, et qui du coup avait déclenché cette affaire d'ailleurs qu'il traînera comme un boulet tout au long de sa vie politique.
Notre-Dame de Toute Z, elle s'appelait Jeanne, lui a succédé Berthe, que voici Berthe, c'est une actrice qu'il va aider à devenir sociétaire du Français, qui en revanche, en échange plutôt, le conseille judicieusement.
Où t'habilles-tu ?
Mais chez mon tailleur. Un petit tailleur à Montmartre.
Eh bien, tu vas quitter ton petit tailleur. Quand on est ministre de l'instruction publique, on s'habille chez un bon coupeur.
Ah.
Cet après-midi, nous irons ensemble chez un tailleur que je connais. Je te conduirai aussi chez un coiffeur.
Hein, pourquoi chez un coiffeur ?
Une idée. Tiens, c'est pour toi.
Oh, un cadeau ?
Oui, un cadeau.
Oh, une blague à tabac.
Ce sera mieux que de remplir tes poches directement de tabac, tu ne crois pas ? Et puis, il vaudrait mieux que tu achètes des cigarettes plutôt que de les rouler toi-même. Maintenant, passons à table, mon chéri. Je te préviens qu'il y a du poisson et que le poisson ne se mange pas avec un couteau.
Jean Topard, qui sera tout au long de cette émission, c'est un extrait, un premier extrait de la Tribune de l'Histoire, Aristide Briand. Oui, voilà, le secret des attaques contre Briand, il est sans doute là. À table, s'il y a du poisson, tu prends ton couteau. Parce que c'est un garçon qui n'est pas bien né, dont ses adversaires disaient qu'il était l'enfant du beuglant.
Alors en effet, Briand naît dans un café-concert, d'abord à Nantes, où ses parents s'installent, puis avec l'arrivée des chantiers navals, à Saint-Nazaire, où toute la journée, en quelque sorte, il se plaît à rester là, à écouter ce qui se dit, ce qui se passe, et certainement à apprendre beaucoup, beaucoup de des échanges du peuple de Saint-Nazaire. Et je pense qu'il en sera d'abord très fier, il ne le cachera jamais, mais cette origine très modeste, certains lui reprochaient même d'être né sur les genoux des prostituées de Saint-Nazaire, le suivra toute sa carrière, notamment par ses principaux adversaires, regroupés à l'extrême droite, l'Action française, et ce sera un moyen pour lui, systématiquement, d'aller plus loin encore, de progresser encore vers le pouvoir.
Aller plus loin, il avait aussi la réputation d'avoir une forêt de poils dans la main, dit son grand ami Clémenceau, de ne pas avoir eu une formation très rigoureuse, sauf qu'il avait été formé à Saint-Nazaire à la parole, et pas seulement en écoutant les gens dans le café.
Absolument.
Il y avait le père Gentil qui l'avait conduit.
Le père Gentil l'a remarqué alors que Briand était à l'école primaire et avait vu tout de suite les capacités qui étaient les siennes. Et il l'a suivi non seulement en primaire, mais aussi dans le secondaire. Il lui a obtenu une bourse pour le lycée à Nantes. Mais surtout, ce qu'il lui a appris, c'est cette formation sur les quais de Saint-Nazaire, contre le vent, à faire porter sa voix au-delà du vent qui venait face à lui, pour pouvoir être entendu et distinctement compris par celui qui se trouvait en face. Tout ça a été à l'origine de son éloquence, cette fameuse éloquence qui a en quelque sorte été le caractère premier de sa vie politique.
S'il n'est pas net, ce n'est pas seulement, disent ses adversaires à cause de ses origines, c'est que c'est un monstre de souplesse, citation d'un homme d'extrême droite, Barrès, il est passé de la gauche au centre.
Il est passé en effet de la gauche au centre, avec une escale à la partie réformiste de la gauche socialiste, donc dans le parti de Jaurès, dont il est le numéro 2. C'est en quelque sorte son accès au Parlement en 1902, donc en fait le fait de devenir notable dans la vie politique et d'abandonner le militantisme qui lui fait prendre compte des réalités. Ces réalités lui donnant très rapidement le pouvoir, puisqu'au bout d'un an seulement, il obtient un rapport très important, on va en parler. Là, c'est celui sur la séparation de l'Église et de l'État.
Parce que le centre, ce n'est pas un lieu, c'est une convergence.
C'est
de
une
toutes convergence. Les forces. On
Bien
est
sûr.
Là à la convergence des forces.
Le Parlement et la pacification qu'il va y apporter va le faire converger vers la position centrale de l'échiquier politique, sans en faire pour autant un centriste, il ne s'est jamais revendiqué comme tel, mais en tout cas, des positions modérées qui feront dire à ses adversaires, oui, Briand est aussi une forme de social traître, il s'est éloigné de son origine.
Alors vous vous dites, c'est l'homme du dialogue social, il y a des preuves de ça ? Jusqu'au bout, il a été partisan du dialogue social.
Il a, représenté ce dialogue social dans un projet de loi qui s'appelle l'arbitrage obligatoire des conflits du travail. Il en avait un petit peu assez, donc, des grandes grèves et de l'armée ou de la police, parfois qu'on envoyait contre les manifestants. Ça, c'est les grandes grèves de Clémenceau en 1907. Il voulait tout simplement pacifier la vie sociale. Il l'a pu le faire vraiment dès lors qu'il avait réglé le conflit laïque.
Il n'y a pas de panthéon pour le centre en France, dites-vous.
Il n'y a pas de panthéon pour le centre en France, certainement parce que le centre, dans un pays qui adore les passions françaises, ne plaît pas beaucoup. Mais peut-être que Briand, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt bien vu à gauche, tantôt bien vu à droite, finira par faire partie, donc, un jour, d'un panthéon des centres, centre-gauche ou centre-droit.
Il va être le rapporteur, nous préveniez-vous, d'un texte important. Ben oui, c'est celui de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. C'est lui l'acteur principal. Il prend la place du petit père Combes, qui était assez belliciste et revanchard, ancien séminariste qui voulait prendre sa revanche sur ses anciens amis. Et lui, il a présenté la séparation comme une œuvre, je reprends votre mot, hein, de pacification.
En votant la séparation des églises et de l'État, vous ramènerez l'État à une plus juste appréciation de son rôle et de sa fonction. Vous rendrez la République à la véritable tradition républicaine. Et vous aurez accordé à l'Église ce qu'elle est en droit d'exiger, la pleine liberté de s'organiser, de vivre et de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, sans autre restriction que le respect des lois. Il ne s'agit pas de déchristianiser la France comme en 1792. La loi que nous vous proposons est libérale. Nous voudrions la faire accepter loyalement par les catholiques.
L'Église est en droit d'attendre autre chose que d'être giflée et regiflée.
Vous ne ferez pas une loi qui soit braquée sur l'Église comme un revolver. C'est un peu ces propos qu'on entend dans l'hémicycle de la Chambre. En effet, pour que la séparation puisse enfin être mise en place, 35 ans après son apparition dans les premiers programmes républicains, il faut constituer, élaborer une loi qui soit applicable. Et pour que cette loi soit applicable, il faut simplement que l'argumentation juridique, les débats politiques puissent être menés de manière libérale, pacifiée dans l'hémicycle. C'est pas facile. Mais grâce donc à cet équilibre ténu qui va pendant 18 mois occuper la commission parlementaire, grâce à plusieurs mois de débats dans l'hémicycle de la Chambre des députés, un record depuis la Révolution française, eh bien Briand va arriver à construire, créer des majorités qui vont le soutenir jusqu'au bout sur un équilibre juridique extrêmement, encore une fois, ténu. La République assure la liberté de conscience. On a droit de croire ou de ne pas croire, d'une part, mais elle garantit le libre exercice du culte, c'est-à-dire que si une église est fermée, pour une raison ou pour une autre, c'est l'État qui est responsable. Voilà l'équilibre juridique qu'il va tenir jusqu'au bout, faire voter la loi, la faire adopter et après l'appliquer comme ministre des cultes.
Je vous entends dire implicitement que nos lois sur le dialogue social, nos textes sur la laïcité sont taillés à coups de serpe et que les débats manquent de sérieux et de longueur. Mais enfin, je ne veux pas insister, Christophe Bédon. Convenez quand même que si les catholiques ont fini par rallier peu ou prou la République, c'est grâce à l'union sacrée que provoque la Grande Guerre. C'est ça le miracle de la réintégration des catholiques. La Grande Guerre pour Briand. C'était un homme qui était prêt à la Grande Guerre?
Si vis pacem parabellum, ça a été redit plusieurs fois à son encontre. Il était...
Vous allez le traduire en français.
Si tu veux, la paix prépare la guerre. Il l'a préparée. C'était un homme de paix, de pacification, on l'a dit, peut-être au plus loin, au profond de ses origines, de sa formation. Mais dès 1913, il pousse au vote de la loi sur la préparation militaire, donc la loi des 3 ans, qui vise à faire passer de 2 à 3 ans la préparation militaire. Si bien qu'en 14, oui, il est prêt, il est certainement aussi éloigné de la guerre, mais il est prêt à la faire. Vous avez commencé l'émission en le disant, et il sera le plus long président du Conseil du premier conflit mondial, 18 mois.
Oui, mais on se souvient beaucoup moins de lui, 18 mois président du Conseil, que de Clémenceau, perd la victoire. Clémenceau, qui a connu des moments encore plus tragiques que le Verdun qu'a connu Aristide Briand, s'adressait directement à la nation qui réclamait de l'action, tout en respectant les droits du Parlement. Briand s'adressait toujours au Parlement, vieille habitude de la délibération d'un centriste.
Briand ou l'incarnation ou le Parlement en personne. En fait, pour lui, la guerre ne pouvait être gagnée au-delà de la victoire militaire que si la République allait sortir victorieuse du conflit. C'était pour lui extrêmement important, c'est la raison pour laquelle il a réinséré dans la décision politique à partir de 1915 le Parlement et ainsi attaché avec les comités secrets, avec le contrôle parlementaire aux armées, avec toute une série d'autres mesures notamment, et y compris d'ailleurs la réforme du pouvoir exécutif, à faire en sorte que la République, en même temps que les armes, triomphe de l'ennemi.
Juste une anecdote, Jean-Noël Jeannet publie un recueil d'articles sur Clémenceau qui commence ainsi. Ils étaient ennemis, voisins, à Passy, tout près de la maison de la radio. Et rue Franklin, dans l'appartement de Clémenceau, après sa mort, on a retrouvé, en dépoussiérant le haut de l'armoire, un dossier brillant et ses activités pendant la guerre.
Lorsqu'il quitte le pouvoir, après ces fameux 18 mois, en mars 1917, Aristide Briand est contacté par des représentants belges, pour essayer de trouver une paix qui aurait donc été concertée. Poincaré, président de la République, est au courant. Painlevé, ministre de la Guerre, est au courant. Ribaud, ministre des Affaires étrangères, est au courant. Tout le monde est au courant et dit à Aristide Briand, mais écoutez, si vous pouvez faire quelque chose, essayez de faire quelque chose. Finalement, cette rencontre n'aura jamais lieu, mais le dossier aurait été conservé. Ce que je me permets d'ajouter à votre remarque, c'est que Clémenceau, qu'on connaît pourtant très opposé à Aristide Briand, n'a pas hésité tout de même en 1918, lorsqu'il a rencontré lui aussi quelques difficultés, avant la fin de la guerre, à faire entrer Briand dans son cabinet. Briand refuse, bien que l'ayant soutenu lors de ses votes d'investiture. Il refuse parce que les deux hommes sont trop différents. Vexé, Clémenceau dira, De toute manière, n'a-t-elle pas une grenouille à un pur sang ? Oui, mais la grenouille est un animal à sang froid, répondra Briand.
Et en effet, quand il s'agira, après la guerre, d'élire un président de la République, notre ami Briand s'arrangera pour contribuer à écarter Clémenceau, qui aurait dit « Moi, président de la République, Briand stationnera 7 ans devant la porte de la présidence du Conseil ». Il va retrouver les premiers rôles à partir de 1921 et surtout à partir de 1925. Il va devenir le premier interlocuteur, de nouveau, de Marianne, la République. On entend Marianne ici dans la reconstitution d'une revue. Les revues avaient lieu à la fin de l'année pour raconter l'actualité politique des 12 mois qui venaient de courir. Marianne est tellement heureuse de voir Aristide tenir à la main une cage dans laquelle il y a la colombe de la paix.
Petite colombe charmante, 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 depuis 7 ans fraîche et pimpante, sautillante. Je te consacre toute ma vie. Je voudrais tant que l'on t'aime autant en Germanie.
Avec son petit oiseau, comme il est gentil. Briand, c'est un brave homme, car il ne vit que pour son cher petit oiseau. Briand, il veut en somme mettre la paix à l'abri derrière ses barreaux. Alors, tu as réussi à capturer cette colombe farouche et délicate?
C'est-à-dire que les hommes l'ont tellement appelée qu'elle est venue d'elle-même se réfugier dans ma cage.
Ah, c'est une encagée volontaire.
C'est amusant. Ouais, j'espère bien qu'elle y restera pendant des siècles.
On t'appelle l'apôtre de la paix.
J'essaie de la donner aux hommes.
Oh, moi, pendant ce temps, je suis si heureuse que cet oiseau précieux soit en sécurité que je danse de joie sans arrêt. Depuis 7 ans, je chante, je danse, je fais la fête. Oh, c'est si bon de vivre en paix. Et pour parler, tu es le plus grand. C'est toi, Briand, le plus brillant, tous les orateurs. Sans y toucher, ton côté, tu mets les rieurs. Ta dégaine à la SDM te rend rigolo. Avec ton blond, ton vieux pantalon, tu ressembles à Charlot.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Où Aristide Briand est de retour aux affaires avec Christophe Bellon qui vient de consacrer à Aristide, l'amoureux de Marianne, dans cette revue de 1927, un livre aux éditions du CNRS. Alors, il faut que je cite ici une publication très savante, Le cabaret de l'histoire, Alexandre Tartat, Armand Mestral était Briand et Fanny Gravière était Marianne. On parle d'année folle, il faudrait parler d'année Briand parce que il est aux affaires de nouveau en 21, et puis pour 6 ans à partir de 1925, 6-7 ans, et son lieu numéro un quand il n'est pas président du Conseil, ou même quand il est président du Conseil, c'est le Quai d'Orsay.
Oui, puisque nous sommes dans une époque où le président du Conseil doit avoir aussi un ministère, un portefeuille, comme on disait, donc il choisit systématiquement les affaires étrangères, et lorsqu'il est ministre, il est tout simplement ministre des Affaires étrangères. Il ne quitte plus le Quai d'Orsay, où il mène la politique de la France, où il mange, où il dort. C'est devenu la maison Briand.
Bah oui, il dort parce que la pauvre Berthe Cerny, il l'a plantée là. La princesse Marie Bonaparte, ça a été une conquête rapide d'avant-guerre. Il y a une nouvelle dame quand même
Madame
dans
Jourdan.
Ces années 20.
Absolument, Madame Jourdan qui représente la troisième grande conquête d'Aristide Briand, en tout cas publique. Madame Jourdan qui va correspondre à la période du pèlerin de la paix et qu'il accueillera dans sa Bretagne à Trébeurden sur la côte de Granit de Rose où il écrira tous ses discours de fin de vie.
Il écrit ses discours ou il les fait de mémoire?
Ah, c'est vrai que...
Il n'écrit rien, il a un poil dans la main.
il finira par déposer comme ça sur des morceaux de papier des idées, mais il disait en effet que ça ne servait à rien d'écrire un, deux ou trois discours, puisque le moment venu, c'est un quatrième discours de toute manière qui serait prononcé.
A-t-il le temps de lire ? Va-t-il encore au théâtre depuis que Berthe Cerny n'est plus là ? Je voulais vous parler d'un roman qui est devenu une pièce de théâtre, qui a eu beaucoup d'importance dans les années 20, Siegfried, de Jean Giraudoux. Ça a été l'occasion de la première grande collaboration de Louis Jouvet et de Jean Giraudoux en 1928. Le roman était paru en 1922. Il dit bien les hésitations de la France devant l'Allemagne. Le héros Siegfried, ici, Guy Tréjean, interroge Geneviève Maria Mauban. C'est un soldat allemand. Il a été frappé d'amnésie pendant les combats. Il voudrait bien savoir ce qu'est l'Allemagne, qu'il a en partie oubliée. Il interroge Geneviève à partir de l'expérience de son fiancé mort au combat.
Il haïssait l'Allemagne.
Il eût aimé l'Allemagne pacifique. Il était sûr de sa défaite. Il se préparait à lui rendre un jour son estime.
Que disait-il d'elle ?
Il disait que l'Allemagne est un grand pays, industrieux, ardent, un pays de grande résonance poétique, où la chanteuse qui chante faux atteint souvent plus le cœur que la chanteuse qui chante juste sous d'autres climats, mais un pays brutal, sanguinaire, dur aux faibles. Il disait, oh, parfois du bien. Il adorait les trois notes du chant des filles du Rhin. Il disait qu'il avait manqué à l'Allemagne, dans ce siècle dont elle était la favorite, d'être simple, de concevoir simplement sa vie, au lieu de suivre les instincts et les conseils de son sol, de son passé. Du fait d'une science pédante et de prince mégalomane, il disait qu'elle s'était forgée d'elle-même un modèle géant et surhumain. Et au lieu de donner, comme elle l'avait fait maintes fois, une nouvelle forme à la dignité humaine, qu'elle n'avait donné cette fois de nouvelle forme qu'à l'orgueil et au malheur.
Siegfried a provoqué d'innombrables débats, presque un charivari. Quelle face de l'Allemagne faut-il considérer pour mener une politique contre elle, avec elle ?
À partir du retour au pouvoir de 1921, Aristide Briand, fidèle à l'application de Versailles, malgré tout ce qu'on a pu dire, souhaite voir en la nouvelle Allemagne république de Weimar, parlementaire et libérale, eh bien une nouvel allié, en quelque sorte, pour essayer de reconstruire la paix. La reconstruction de la paix ne pourra se faire, ne peut se faire, c'est ici qu'apparaît cette idée d'Europe, que par l'Europe elle-même. On pense l'Europe, on construit la paix.
Mais quelles sont les difficultés avec l'Allemagne ? La question des réparations, la reconnaissance par l'Allemagne des frontières telles qu'elles ont été définies par le traité de Versailles qu'elle considère comme une humiliation ?
Eh bien, au moins ces deux raisons, puisqu'en effet l'Allemagne considère le traité de Versailles comme un diktat et refuse le paiement des réparations, qui est fixé à 132 milliards de marks or en ce printemps 1921. Et d'autre part, il y a la très difficile question des frontières, c'est-à-dire comment faire pour que un pays comme l'Allemagne, devenu démocratique, puisse entrer dans la société des nations ?
La société des nations a été créée à l'issue de la guerre. Elle siège à Genève, autre Palmyre,
absolument,
disait-on à l'époque.
Et comment la faire entrer dans cette société des nations si les frontières qui résultent de la guerre ne sont pas reconnues par elle ? Si bien qu'un grand moment va cristalliser tout cela et va permettre de renforcer cette réconciliation franco-allemande, c'est Locarno, où précisément...
Alors 1925, une rencontre.
Une rencontre, le premier couple franco-allemand se forme, Aristide Briand et son homologue Gustav Stresemann, qui n'ont pas du tout le même comportement, le même tempérament politique, mais qui malgré tout vont tous les deux, main dans la main si je puis dire, c'est un petit peu... Les ancêtres sont un petit peu les ancêtres du Verdun entre Mitterrand et Kohl, construire donc une réconciliation et une pacification à Locarno sur la question des frontières.
Reconnaissance de la frontière occidentale par l'Allemagne et cette phrase de Aristide Briand, nous avons parlé ensemble, l'Européen.
Ce qu'il faudrait, ce serait créer une Europe nouvelle, un accord des nations. L'important serait de créer un terrain de rencontre pour tous les peuples. Une défense commune contre une attaque brutale. À la conférence de Gênes, aucun État ne devra être admis si, à la porte d'entrée, il ne signe un pacte général de non-agression. Nous avons signé à Locarno un pacte sincère et loyal. Il ne peut prendre son essor que sous l'égide de la Société des Nations. Il faut donc que demain, l'Allemagne y prenne la place qu'une grande nation doit y tenir. Quand on voit toutes les causes de conflits graves que la Société des Nations a écartées, on a le droit de dire qu'elle peut désormais affronter toutes les difficultés passagères.
On parlera des difficultés qui vont être plus que passagères. L'opinion suit, à vous lire dans votre livre, CNRS Éditions, je rappelle, l'opinion suit.
Oui, et je crois que c'est la plus grande force que va constater Aristide Briand. Il préfère des traités, il préfère finalement des décisions qui ne sont pas complètement, je dirais, au plan diplomatique ficelées, comme Locarno. Vous avez rappelé la reconnaissance des frontières occidentales de l'Allemagne, mais celles qui sont à l'Orient ne sont pas reconnues. On sait que la Seconde Guerre commencera là. Il préfère donc des décisions pas tout à fait abouties, mais qui ont le soutien populaire, parce qu'ils considèrent que l'esprit européen, l'esprit populaire soutenant la construction de l'Europe sera plus fort que tout. Il vaut mieux cela que l'inverse.
Vous racontez une anecdote. Dans sa jeunesse, il est à l'impérial d'un omnibus en 1885, c'est la place de Victor Hugo, et le receveur de l'omnibus lui dit « Laissez la place à l'illustre grand homme ». Alors Briand s'efface, converse un instant avec Victor Hugo, qui lui dit dans sa barbe blanche « Ah, jeune homme, demain ce sera l'Europe ». C'est l'Europe de Victor Hugo, c'est pas l'Europe réaliste.
Ah, c'est l'espérance que Victor Hugo a portée lorsqu'il avait parlé des États-Unis d'Europe. Et c'est cette idée-là que Aristide Briand, encore une fois, pour construire la paix, la construire dans le droit, essaie de mettre en place. Alors, Locarno, c'est une première étape, certes, qui décontenance un petit peu ceux qui la critiquent, un doux rêveur, mais elle aura pour conséquence un certain nombre de mesures qui seront elles très concrètes. J'en cite au moins une, si vous le permettez, l'entente internationale de l'acier, qui va être en quelque sorte précurseur, puisque la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sera mise en place concrètement après 1945, en 1950. Mais voilà une mesure qui, elle, est
concrète. Il aurait fallu, Christophe Bellon, passer par le creuset de la Deuxième Guerre mondiale. Clémenceau, qui vit encore au moment de Locarno, dit « Ça sera déchiré par Berlin quand ?» Et quand ça conviendra à Berlin et quand il faudra que Berlin le sente nécessaire. 1931, très vite, le dernier voyage, il est encore au Quai d'Orsay, Laval est président du Conseil déjà, le flanque s'invite dans son train. Il passe pour la première fois la frontière allemande, tout arrive. Oui, mais en Allemagne, à Berlin, il y a plus de Stresemann, il est mort. Hitler est aux portes du pouvoir.
Nous sommes à un moment où précisément, c'est le Briand vieillissant qui est bien conscient qu'il a raté son œuvre. La crise économique est passée par là et le voyage à Berlin est triste. Triste lorsqu'on voit Briand qui demande de sortir du convoi officiel pour se diriger vers le cimetière, aller dire un dernier au revoir à Stresemann qui a été son homologue. Triste parce que, naturellement, ses grands espoirs des années 20 n'ont pas fonctionné. C'est la crise économique qui a balayé tout ça. C'est pas forcément les projets politiques, car je rappelle, ils étaient soutenus par le Parlement, surtout le Parlement français, où Briand a eu des majorités extrêmement importantes. Mais quand l'économique prend le pas sur le politique, au point que l'on connaît, tout est tombé.
On connaît aujourd'hui aussi testament de Briand.
Nous n'acceptons pas que dans aucun cas, pour aucune cause, dans aucune circonstance, la guerre que nous avons clouée au pilori comme un crime puisse se réveiller.
L'émission était consacrée à l'Aristide Briand de Christophe Bellon aux éditions du CNRS, à la technique Gilles Gaillard, la préparation Frédéric Martin, Franck Olivard, Timothée Fourré et Ilinka Negulesco, la réalisation Jacques Sigal.